Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Pas marre, c'est pas marre d'entendre Christophe. De toute façon, c'est truqué.
Les grandes gueules du sport.
On entend que lui déjà. Non, mais on entend que lui, franchement.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'est vrai qu'on entend que Christophe. Christophe, c'est celui avec nous. Pascal Duprat, évidemment. Jérôme Pinot, Fred Weiss ce matin. Les grandes gueules du sport, c'est votre édition jusqu'à midi. On est très heureux, évidemment, d'être avec vous. On a évoqué à 9h Lille-Marseille. Si vous voulez nous réécouter en podcast tranquillement cet après-midi, c'était un débat de bonne facture avec l'OM. Mérite-t-il d'être deuxième? Vous allez voir, les GG n'étaient absolument pas d'accord. Alors, dans quelques instants, le bras de fer des GG UBB Stade Toulouse. Qui rejoindra Northampton en finale de la Champions Cup? Le duel franco-français est immense aujourd'hui. Le Stade Toulousain est-il toujours archi favori? 10h30, la fin de l'ère Popovic. C'était le coup de tonnerre. Vendredi soir, l'emblématique coach des Spurs tire sa révérence après 29 ans passés sur le banc de San Antonio. Un entraîneur peut-il encore rester 20, 30 ans dans un club? Ça tombe bien, Marc Madiot est avec nous. On lui demandera son secret, notamment de la longévité. Et puis 11h, un débat qui est en train
tu
de
veux
prendre.
Tu veux le mien, non?
De ta longévité, vas-y.
Bah, il n'y en a pas. Ça n'a pas duré.
Et bah justement, tu vas nous dire pourquoi ça n'a pas duré. Et puis 11h, un débat qui est en train de prendre depuis hier soir. Luis Enrique avait envoyé les coiffeurs hier à Strasbourg à quelques jours du match de l'année. Forcément, pour le Paris Saint-Germain face à Arsenal, résultat une deuxième défaite d'affilée. Et ceux qui luttent pour aller en Ligue des Champions, qui rient un petit peu jaune. Le PSG fausse-t-il la course à la C1? Ce sera un 2 contre 2. Mais GG, on en reparlera donc à partir de 11h. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Voltaire. Oui, je cite Voltaire dans cette émission, c'est une émission sérieuse.
On peut saluer Fred Weiss. On le salue? Ce que tu viens d'annoncer, il est pas avec nous, il est malade, mais donc on le salue quand même.
Pourquoi j'ai dit Fred Weiss?
Oui, tout à fait. Mais bon, on le salue, hein, il est là par la pensée forcément.
Ah oui, Marc Madiot qui a remplacé au pied levé, voilà. Fred Weiss, pardonne-moi mon cher Marc.
Soucis.
Mon assistant,
c'est pas le même gabarit quand même.
Mon assistant n'a pas changé mes fiches, il sera fouetté comme il se doit évidemment avec du parmesan. Pardonne-moi mon cher Marc Madiot, et on embrasse Fred Weiss, malade aujourd'hui. Imagine.
Ça arrive,
un mec de 2m20 malade.
Le virus, il est costaud. Il est courageux.
Voltaire a donc dit un jour, les hommes sont comme les animaux, les grands mangent les petits et les petits les piquent.
RMC, le bras de fer GG.
Spartiate, mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînerons en enfer ce soir.
Ça ne s'arrête jamais. Du pompier en mer qui va au rein. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Il est à
essai
d'Antoine Dupont.
Un Spartiate ne recule jamais. Un Spartiate ne se rend jamais.
Aura, on est à 5 mètres face au poteau. Il en fond de tout, les Toulousains. Il en fond de tout et ça va aller à l'essai. 8e essai.
Arcadia maintenant. Allons-y. Montrons aux Spartiates ce qu'on sait faire.
Oh là 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 là, quel rugby les Toulousains.
En avant. Préparez-vous pour la gloire. Nous allons tenir, nous battre et mourir.
Tenant du titre en Champions, oui, on en fait des tonnes. Tenant du titre en Champions Cup, tenant du titre en Top 14, l'UBB se retrouve face à la montagne toulousaine cet après-midi en demi-finale de la Champions Cup. Dis-moi, on en parlait hier après l'humiliation en finale du Top 14, les Bordelais veulent laver cet affront, d'autant que le Stade Toulousain semble plus prenable que la saison dernière, sans Antoine Dupont, sans Thomas Ramos, sans Peato Movaca. Mais Maxime Lamotte, à l'honneur de l'UBB, prévient. Enfin, il prévient doucement, mais à un moment donné,
sûr,
il va prévenir.
On n'a pas de complexe, on est complètement décomplexé. On sait que le Stade Toulousain est archi favori sur cette confrontation. Donc, on y va sans complexe, on est très content du parcours qu'on a fait. On y va pour essayer d'atteindre cette finale. On a pas mal d'atouts à faire valoir. Ça reste quand même les doubles champions de France et aussi d'Europe. Ils sont favoris sur cette affiche-là. Donc voilà, on y va. Comme j'ai dit, on y va sans pression et on y va pour gagner ce match.
On y va sans pression pour gagner ce match archi favori, le Stade Toulousain. Alors je vous pose la question ce matin dans le bras de fer des grandes gueules du sport. Le Stade Toulousain est-il toujours archi favori? Dans le coin droit, la team non. C'est clair pour lui. C'est Pascal Duprat. Et il est tout seul. Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Jérôme Pinot, Marc Madiot et Christophe Cessieux.
Je ne suis pas dans le clan archi favori. Je dis favori, mais pas archi. Et la nuance est importante.
La nuance est importante. Attention.
Là, pas archi, mais qui met des chemises de boucher, il est un peu particulier quand même. Il est un peu,
Dommage que l'on ne soit pas enchaîné pour l'avoir, je suis d'accord.
Mauvais t-shirt, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, là?
T-shirt, c'est très bien, mon t-shirt. Mettra deux côtes de veau, s'il te plaît.
On ne va pas sur les tenues des copains, c'est des courants dessous la ceinture, les copains. Restons sur les arguments sportifs. Alors, dans le coin gauche, la team non, représentée par Pascal Duprat et par Christophe Cessieux. Ils sont ensemble et c'est assez rare pour le souligner. Dans le coin droit, la team oui, Jérôme Pinault, Marc Madiot. Alors, sachez que pour l'instant, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est 53-47. 53% oui, vous êtes devant, les copains du vélo. Il va falloir travailler, Pascal et Christophe. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Qui commentera cette rencontre en direct de Bordeaux cet après-midi? Wilfried Templier, salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Les Toulousains se déplacent-ils à Bordeaux, toujours aussi confiants alors?
Bah alors déjà côté Toulousain, on a panié cette semaine que les forfaits, hein, et non des moindres, si on prend les absents Dupont, Ramos, Movaca et Kinghorn, c'est un total de 205 sélections pour ces quatre joueurs, donc tous titulaires en puissance. Donc déjà on avoue que c'est pas neutre. Écoutez le manager Hugo Mola.
Bah, c'est jamais idéal d'avoir de nombreux joueurs de cette qualité-là absents dans ce genre de moment, mais on va espérer que notre puits reste intarissable et que de l'intérieur se révéleront plein de joueurs. Donc il y a évidemment beaucoup de confiance en nos ressources, mais il nous manque évidemment des joueurs de classe pour certains internationales, pour d'autres mondiales.
Les Graou, Delib, Malia doivent donc prendre le relais des titulaires habituels. On ne se fait pas de soucis pour le talonneur Julien Marchand qui est capitaine aujourd'hui, ni pour le reste de l'équipe hein, tout de même. Par exemple avec 7 internationaux français sur les 8 joueurs du pack, plus l'anglais Jack Willis, excusez du peu. Et puis sur ce côté favori, souvenez-vous ce que disait Yannick Bru, le manager de l'UBB, au journaliste présent cette semaine en conférence de presse. Sur quelle équipe vous mettriez votre maison? En d'autres termes, tout le monde voit Toulouse favori évidemment. Donc on a posé la même question à Hugo Mola, lui, sur qui il mettrait sa maison. Sa réponse:
sur Toulouse. Vous voulez que je la parie sur qui? Vous voulez que je la parie sur qui? J'ai la parier sur Toulouse, bien évidemment. On est champion en titre, on sort d'un doublé, on est très amoindri, mais on croit en nous. Sinon, il ne faut pas que je sois l'entraîneur de Toulouse. Vous voulez que je sois l'entraîneur d'où? Et demander si c'est le président, il va jouer la sienne sur Bordeaux, ça sera la même.
Voilà, il a tout de même rappelé l'ampleur de la tâche, hein, que sur les 12 dernières demi-finales, c'est 92% de victoires à domicile, de quoi magnifier un succès aujourd'hui. Mais si l'UBB va jouer la deuxième demi-finale de son histoire, ce sera la 17e pour le Stade Toulousain et plus concret pour ce groupe-là, la 7e de suite avec sur les matchs qui comptent ces dernières saisons, 4 boucliers, 2 Champions Cup. Donc ces joueurs ne paniquent pas souvent dans ces matchs qui comptent. Le deuxième ligne international, Emmanuel Méafou, tente de l'expliquer.
On a un groupe assez fort et assez serré. Quand il y a des matchs comme ça, demi-finale, finale, quart-finale, il y a beaucoup de leaders autour de nous. Donc c'est pas un mec qui porte toutes les responsabilités. Il y a tout le 15, il y a eux qui sont sur le banc et même le joueur qui joue pas, donc tous capables de gérer ce pression quand on commence à jouer ce grand match. Nous on a de confiance en nous-mêmes et j'espère qu'on va faire un bon match contre Bordeaux.
Et c'est peut-être pour cela qu'en 15 confrontations face au club français en Coupe d'Europe, jamais le Stade Toulousain n'a perdu. Un nul en 98 face à Brive, Toulouse éliminé au nombre d'essais marqués sur jour-là, mais à côté 14 victoires face au club français dont 3 en finale.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Le Stade Toulousain est-il toujours archi favori? Vous avez entendu la réponse amusante d'Hugo Mola. Sur Toulouse évidemment je joue la maison. D'ailleurs je vous poserai peut-être la question tout à l'heure sur qui vous joueriez votre maison, sur Toulouse ou sur l'UBB cet après-midi. C'est 47% non, le Stade Toulousain n'est pas archi favori. Pascal et Christophe, vous êtes derrière dans ce débat. Pascal Duprat.
Oui, et d'ailleurs Christophe me rejoint parce que ta question archi favori, ta question elle tombe sous le sens qu'on va répondre non. Voilà, il y a 47% d'auditeurs qui ont du bon sens. Toulouse, et quoi qu'on en dise, hégémonique en France et en Europe, c'est le meilleur club au monde certainement. Mais il y a un mais et il y en a plusieurs. Le premier mais, c'est qu'ils ont des joueurs d'importance, qu'ils sont absents cet après-midi, ça c'est pas neutre. Manquer de Ramos et Dupont, ne serait-ce que ces deux-ci. Alors je vous fais l'économie de Movaca parce que Marchand, c'est son alter ego. Mais les deux premiers cités, ils n'ont pas d'ego en France à ce poste-là. Ils n'ont pas d'ego à Toulouse, même si Hugo Mola va réadapter son équipe, on lui fait confiance. Donc ça c'est la première raison qui me pousse à dire que Toulouse n'est pas favori. La deuxième, c'est qu'il me semble que depuis la finale du championnat de France l'année dernière à Marseille, les Bordelais ont aussi beaucoup progressé. Les Bordelais se sont améliorés et les Bordelais vont jouer à domicile. Et Dieu sait si, en rugby, le fait de jouer à domicile, ça compte malgré tout énormément. Donc ça amène une certaine indécision qui est pas naturelle à ce stade de la compétition lorsqu'il s'agit de Toulouse contre une autre équipe française. Pour cette raison, et fort logiquement, comme Christophe va emboîter le pas, eh bien il me semble que Toulouse n'est pas archi favori. D'ailleurs, dans les commentaires d'avant-match d'Hugo Mola, il me semble que ça trahit malgré tout un peu d'incertitude. Même s'il est sûr de lui, même s'il feint d'être sûr de lui, franchement, les cailloux dans la chaussure avec les blessures de dernière minute, ça doit quand même quelque part l'interloquer et l'interroger.
Ah, tu vois du doute chez Hugo Mola. Jérôme Pinault, pourquoi oui, le Stade Toulousain est toujours archi favori?
Parce que moi, du coup, j'ai pas vu de doute du tout chez Hugo Mola et à écouter Wilfried qui donne les stats. C'est assez limpide. Le Toulouse a une telle marge jusque-là, malgré, là, avec les blessés, peut-être que la marge s'amoindrit. Mais le Stade Toulousain a un tel palmarès, a un tel groupe. Ça joue très collectif.
Le c'est poids le
groupe.
De l'histoire.
Et cette expérience du très haut niveau arrivée en demi-finale, ils n'ont jamais perdu contre un club français à ce niveau-là. Et cette expérience-là, avec ce projet de club et collectif-là, me laisse juste dire que oui, peut-être, on peut s'attendre à un match un poil plus serré, mais il reste archi favori du match. Pour moi, et pourquoi je dis oui à archi favori, ce serait une énorme surprise que l'UBB élimine Toulouse.
Tu crois que ce serait la même surprise que celle de voir Northampton battre Leinster? Exactement. Par exemple, comme Denis hier nous disait que le Leinster allait passer 50 points à Northampton. Bah, résultat, les Anglais sont allés taper les Irlandais. Donc on ne sait jamais en matière de rugby, même si tu as un archi favori, même si tu as un club comme le Leinster qui dispute cette demi à domicile, qui doit écraser, qui écrase tous les autres clubs, mis à part certains clubs français depuis des années, eh ben, les surprises, elles restent possibles.
Je suis d'accord, Christophe, mais
ce niveau de compétition,
qui est au-dessus du lot,
bien sûr, mais il est arrivé à Toulouse de se prendre les pieds dans le tapis. Mais c'est la première fois, moi je trouve que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de circonstances favorable à l'adversaire de Toulouse. Ça n'a jamais été le cas à ce niveau-là. Que tu aies Ramos et Dupont absents, c'est les maîtres à jouer de cette équipe et de l'équipe de France. C'est ceux qui font gagner Toulouse, c'est ceux qui font gagner les Bleus et ils sont là ni l'un ni l'autre. Alors évidemment, Toulouse a un banc incroyable, une profondeur
Toulouse
de banc.
Toulouse s'est joué sans Dupont.
Mais on en parlait avec Wilfried. On a fait un débat entre les poteaux il y a quelques semaines en disant est-ce que Toulouse peut continuer à gagner sans Dupont. Tout le monde n'était pas d'accord, notamment dans les matchs clés, dans les matchs qui comptent, parce que jusqu'à présent ils ont eu un match contre Toulon difficile, mais là on est quand même au sommet de la compétition, et notamment contre le Leinster l'année dernière en finale, s'il n'y a pas Dupont, Toulouse perd. Donc est-ce que aujourd'hui, face à un UBB qui est remonté, qui a un effectif plein badin, ils ont quelques absents devant, ça peut être préjudiciable.
Ce qui n'est pas anodin, parce qu'on parle énormément des absents à Toulouse, mais il y a quelques absents à Bordeaux
oui,
aussi.
Ils ne sont pas revenus.
C'est pas le groupe type, notamment le
gros tonnage bordelais qui est pas revenu. Et ça, c'est l'un des principaux points d'interrogation côté bordelais. Mais moi, je pense que Toulouse est favori, de par son expérience, de par beaucoup de choses.
Mais
pas archi favori. Pour la première fois, il y a peut-être une ouverture.
Une fenêtre.
Ok, il va falloir
rentrer sans la casser.
On reparlera d'Antoine Dupont dans quelques instants, c'est très intéressant. Marc Madiot, toi, tu crois au poids de l'histoire?
Moi, je crois au poids de l'histoire, au palmarès. On est un petit peu avec Toulouse dans la situation que connaît la majeure partie du temps le Real de Madrid en football. Alors, certes, l'année qui vient de s'écouler pour le Real n'est pas le meilleur exemple. Mais globalement, sur l'histoire de ce sport qu'est le rugby, moi, je ne sors qu'une équipe du lot, c'est Toulouse. Toulouse a su surmonter toutes les difficultés, passe à travers tous les échecs et rebondit inéluctablement en vainqueur dans les grandes compétitions. Donc, pour moi, le poids de l'histoire est favorable à Toulouse et Toulouse va s'imposer. Parce que justement, ils ont ce vécu, ils ont cette expérience, ils sont en demi-finale.
Pas la peine d'allumer la télé, alors Marc.
Bah, tu peux allumer la télé pour te distraire.
Allumer la radio plutôt.
Ou la radio.
Ah bah oui.
Ou mettre la télé, écouter la radio.
La télé, écouter la radio.
C'est ce qui se fait mieux. Mais Toulouse a la maîtrise, à cette expérience qui fait que même quand ils ne sont pas avec la totalité de leurs effectifs, ils vont quand même s'exprimer, ils vont faire comme si de rien n'était, ils vont être capables de développer et de jouer leur match. Comment ?
C'est deux cadors d'un coup qui
manquent. Et alors ?
Quand même.
Et alors ?
C'est Bordeaux qui progresse. Piloté par un entraîneur expert.
Oui. Mais moi je mets quand même Toulouse devant.
Attention.
Ça me coûte
de le dire. Pardon de le souligner. Ça me coûte parce que je suis un supporter toulousain. Ça me coûte de le dire. Je veux dire je suis obligé d'être objectif. Donc pour répondre à cette question, c'est pas archi favori. Il y a pas les Champs-Élysées pour Toulouse cet après-midi. Ben si tu me dis que c'est pas la peine de regarder le match puisqu'ils vont quand même
le regarder avec intérêt.
Ah oui.
Évidemment, écoutez, et parce que ces dispositifs exceptionnels sur RMC, je vous le donne, avec Yann Deleg, avec Nicolas Paul-Orsi, avec Wilfried Templier aux commentaires, avec Christophe Cessieux qui sera évidemment le chef d'orchestre autour de cette rencontre à partir de 16h. Oui, comme dit Pascal, il est partout, on entend que lui, le week-end, sur RMC. Mathieu nous appelle au 32-16 et après, je sais que vous voulez réagir. Mathieu, bonjour.
Salut Gégé, ça va bien ?
Tout va très bien, Mathieu. Mon cher Mathieu. Bonjour, Mathieu. Supporter du Stade Toulousain, Mathieu. Ouais. Bon, archi favori ou pas, toujours ?
Bah, archi favori, mon côté supporter, je vais dire oui. Mais faut être réaliste, hein. C'est l'année où il faut prendre le Stade Toulousain. Si on veut gagner le top 14, si on veut gagner la Champions League, la Heineken Cup, anciennement la Heineken Cup, la Champions Cup, voilà. Et Toulouse à la poisse entre la blessure de Movaca, la blessure de Dupont, Blair Kinghorn qui est pas là, Ramos qui est pas là, ça fait Ntamack qui revient,
qui est sur une jambe, pas son prime.
Moi, je pense que c'est la période pour prendre le Stade Toulousain et reprendre un peu des titres, quoi, parce que là, c'est vrai qu'ils dominent, ils archi dominent. C'est toujours bien pour nous les supporters de supporter une équipe qui gagne, mais c'est vrai que là, je pense que c'est l'année où ils sont à prendre. Ils peuvent avoir. On a bien vu contre Toulon. Moi, je les voyais déjà. J'ai vu une équipe qui a eu du mal.
Qui n'a pas encaissé un seul essai quand même contre les Toulonnais. Hein, alors qu'ils étaient en déplacement à Mayol. Ouais, mais bon, oui, quand même. Hein.
Donc là, contre l'UBB, moi, je pense que ça peut être. Après, c'est vrai que, on est Toulousain, on veut tout le temps battre l'UBB, on veut tout, comme ça, l'UBB, La Rochelle, c'est les équipes à battre. Et on sait que, comme ça, Moscato, lundi, il tirera la gueule parce que Toulouse a gagné. mais c'est vrai que, l'UBB, pour moi, c'est une équipe qui mérite de gagner quand même aussi parce qu'ils ont une très belle équipe et c'est une génération qui doit gagner des titres, qui doit pas rester, sans rien non plus, quoi.
Ah ben, je pense que s'ils perdent aujourd'hui, avec tous les avantages, toutes les possibilités peut-être enfin de battre le Stade Toulousain, là, ça risquerait de leur mettre un coup définitif derrière la nuit. Wilfried, deux, trois questions quand même concernant les autres, les Toulousains qui sont aptes, mais qui sont peut-être pas au sommet de leur forme. Qu'en est-il du genou de Ntamack ? Qu'en est-il de Meafou ? Et Cyril Bailly a finalement été préféré à l'autre pilier. Est-ce qu'il a récupéré toutes ces qualités qui ont fait de lui le meilleur pilier gauche il y a encore un ou deux ans?
On en a parlé récemment. C'est vrai que Cyril Bailly est sorti d'une grave blessure à l'issue de la saison dernière, fracture tibia péronée, que des revenus début janvier, que fin janvier, il était à Marcoussis avec l'équipe de France et qu'il a beaucoup enchaîné. Que c'est vrai que ça peut-être le retour du tournoi a peut-être un peu été difficile pour lui. Là, il est titulaire, il a expérience, 57 sélections. Je pense qu'il a tous ses moyens. Concernant Romain Ntamack, de toute façon, il l'avait avoué lui-même, hein, il a une douleur dans le genou, il doit se faire nettoyer l'articulation cet été. Et donc, il a un énorme strap sur le genou à chaque fois. Il n'a pas joué depuis Toulon, depuis le quart de finale en fait. Il a très peu joué en top 14 et il est pas à 100% de ses moyens. Malgré tout, ça reste un. Vous connaissez le leader qu'il est, défensif aussi. Donc, ce sera très important face aux avions de l'UBB. Mais c'est vrai que et pour Meafou, c'est pareil. Hein, il n'a pas joué depuis le quart de finale. Et, par contre, hier, il disait en conférence de presse, ce colosse disait. On va pousser un peu la machine, il disait. Donc voilà, comme le dit Hugo, mon entraîneur, on va parce qu'il parlait de jouer peut-être 80 minutes. Quoi. On va pousser la machine, et c'était une sacrée machine. Donc voilà, mais après il y a des joueurs. qui remplace les blessés. Vous avez Juan Cruz Malia à l'arrière, qui est l'arrière de l'équipe d'Argentine, hein, qui en novembre a joué arrière avec l'équipe d'Argentine et qui sait tout faire, cet homme, sur le terrain. Ouais. Ils ont mis Dimitri Delib à l'aile à la place de Blair Kinghorn. Alors, il n'a pas le jeu au pied et sous les ballons hauts de Kinghorn, mais c'est un puissant ailier et je pense qu'ils l'ont mis aussi face à Penaud. Comme ils ont mis Ange Capozzo, qui n'a pas joué depuis, vous vous souvenez, il était sorti sur civière à Sale, face à Sale en huitième de finale. C'était finalement qu'une grosse entorse. Il est de retour cette semaine à l'entraînement. Il est titulaire. Peut-être aussi parce qu'en face, il y a une sacrée mobilette qui s'appelle Louis Bielbiaré et qu'il faut mettre un sprinter face à lui. Le duel Capozzo-Bielbiaré, ça peut être extraordinaire cet après-midi. Donc voilà, ils ont des ressources. Comme tu l'as dit, ils ont des absents. Si Bordeaux ne bat pas ce Toulouse-là, je ne sais pas quel Toulouse pourra battre l'Union Bordeaux-Bègles. C'est peut-être le jour ou jamais pour l'Union Bordeaux-Bègles.
Et si vous voulez tout savoir de ce match, les forces en présence, je vous conseille l'écoute du podcast qu'on a fait en début de semaine, ça s'appelle Entre les poteaux.
Bien sûr, disponible sur toutes les plateformes.
Avec Laurent Labitte comme invité, qui a affronté les deux équipes en tant que manager au Stade français. Et on dit tout, on dit tout des forces et des faiblesses des deux.
C'est à 16h, évidemment, gros dispositif sur RMC. Le Stade toulousain est-il toujours archi favori? Vous avez gagné un petit point. Pascal Duprat, Christophe Cessieux, c'était extrêmement serré. C'est du 52-48.
C'est le point du fair play.
Au final.
C'était une histoire de.
Ça allait être sympa.
Donc, respect pour les aînés.
Donc, archi favori, ça fait quoi? 30 points d'avance pour le Stade toulousain?
Écoutez, c'est un moment très important sur RMC, la musique de la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16, et peut-être gagner l'expérience RMC, c'est-à-dire venir sur RMC mercredi soir. Et vos deux places pour Paris Saint-Germain, Arsenal, c'est très important. Vos places PSG-Arsenal se gagnent uniquement sur RMC. Pour vous, les auditeurs, vous jouez dès maintenant PSG au 7-32-16. D'ailleurs, le PSG, on en reparle à partir de 11h. Restez bien avec nous. Mais tout de suite, la longévité de Greg Popovich. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi, toujours avec Marc Madio, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Jérôme Pinault. À partir de 11h, on ouvre le débat du Paris Saint-Germain à quelques jours d'affronter Arsenal, le PSG qui a perdu hier face à Strasbourg. Soyez bien présents, supporters parisiens, avec nous au 32-16. Giroud, 44 ans à Auxerre, Sir Alex Ferguson, 27 ans à Manchester United, Arsène Wenger, 22 ans à Arsenal, Marc Madio, 28 ans à la Française des Jeux, série en cours. Greg Popovich vient de tirer sa révérence après 29 ans passé sur le banc de San Antonio, une déflagration, il faut bien le dire, en NBA pour un entraîneur qui a tant apporté à la Ligue et à son équipe, avec notamment 5 titres de champion NBA. À 76 ans, il était temps pour lui de passer la main après des problèmes de santé et notamment un AVC en novembre dernier qu'il avait privé de banc depuis. Un homme dévoué au sport, vous le savez, qui laissera une trace immense dans sa franchise. La NBA est donc sous le choc, à l'image de son dernier protégé, Victor Wembanyama, notre français. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Coach, merci pour votre sagesse, pour votre leadership, pour l'environnement que vous avez créé. Plus importante encore, parce que vous êtes une personne incroyable dont on peut s'inspirer. Ça a été un honneur de faire partie de ces 29 saisons. Je vous souhaite le meilleur pour le prochain chapitre.
Et voilà, résumé, le message de Victor Wembanyama, c'était sur X, après l'annonce donc du retrait et de la fin de carrière de Greg Popovich. Mais GG, peut-on encore rester aussi longtemps dans un club? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Marc Madio?
Plutôt non.
Pascal Duprat?
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Eh ben Jérôme, tu commences. Pourquoi oui?
Je pars de loin là.
Oui, mais vas-y. Tente de.
Non, mais j'ai dit oui parce que si tu gagnes et que t'as des trophées et que tu mets des lignes au palmarès du club sur la durée, il y a pas de raison que ça change. Et je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. C'est plutôt le contexte extérieur qui pour moi met en fragilité l'entraîneur et l'homme de terrain. Tant que ça roule et tant qu'il y a des résultats et tant que ce qu'on a vendu aux partenaires, au public, est en phase avec ce qu'on voit sur le terrain ou sur la route, il n'y a pas de raison de changer. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Alors effectivement, vu de l'extérieur, on veut tout de suite. Aujourd'hui, un investisseur veut tout de suite. C'est un peu différent NBA, c'est un système économique qui est légèrement différent. Mais je vois pas pourquoi dans un club aujourd'hui, comme on l'a pu le voir avec Arsène Wenger à Arsenal par le passé, pourquoi aujourd'hui Slot à Liverpool ne ferait pas 30 ans ? Pourquoi pas ? S'il gagne une Cup, une Champions League, une Coupe de la Ligue, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Parce qu'on a des stabilités. Est-ce qu'on me dit, est-ce que à Marseille, dans un club au basket comme à Limoges, la stabilité, est-ce que ça peut durer 30 ans ? Non ! Parce que c'est même plus le mec de terrain qui chez lui et qui décide. Mais quand, tant que ça marche et qu'on a quelqu'un qui est en phase avec les valeurs comme Marc peut l'être, qui mieux que Marc aujourd'hui à la tête de son équipe, ça peut durer 30 ans.
Enfin, Marc, il est pas entraîneur, il est président de son club.
Il est manager.
Il va pas se virer. Il va pas se virer tout seul. C'est lui qui décide de virer ou non.
Non, mais alors, pour aller.
Il va se virer tout seul.
Pour aller. Non, normalement, non.
Oui, enfin,
non, mais pour aller dans son sens, dans le sens de Jérôme, il y a un exemple quand même. Rare, bien sûr, mais il y a un exemple. Diego Simeone à l'Atlético
Madrid.
Madrid.
Lui, ouais, c'est un vrai exemple.
Mais il est en 14 ans. Il est en 14 ans. Parce qu'il est en phase avec le projet du club, qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, et que derrière, il est soutenu.
Moi, pour et moi, aussi parce qu'il a la fibre du club, parce qu'il a eu plusieurs fois la possibilité de partir. Et ça, c'est un élément qu'il faut en prendre en compte aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a l'identification à l'équipe?
Oui.
Ah ouais, bien sûr. Être en phase avec le projet global. Si le mec qui a la baguette, on me dit Marc, il va pas se virer tout seul. Non, mais si Marc, il est plus en phase avec le projet, on va lui dire t'es gentil, tu vas être ambassadeur machin, mais tu vas pas être il est toujours
moi,
aux manettes.
Moi je suis pas entraîneur.
Ouais, mais Jérôme, ça a des limites ce que tu dis.
Alors Pascal.
Non, mais le manager en vélo, c'est la même chose qu'un entraîneur dans le football.
Pascal.
Non, mais quand tu as l'habitude de beaucoup gagner, prenons l'exemple de Guardiola. Lui, il va rester à Manchester City parce qu'il incarne Manchester City. Pour autant, cette saison, elle est pas bonne, elle est pas aboutie. Alors, il y a des raisons à cela. Mais imaginons Guardiola l'année prochaine qui réitère la même saison que celle d'aujourd'hui. Eh ben, immanquablement, malgré le fait que ce soit Guardiola, il aura pas l'immunité. Aujourd'hui, tu peux pas gagner
c'est
tout
pour
le
ça,
temps.
Tu parles de Slot si à Liverpool, résultat, ouais.
Mais quand tu es à Liverpool, parlons de grands clubs, donc tu parles de grands clubs. Liverpool qui joue le championnat le plus prestigieux au monde, va pas être champion toutes les années, va pas gagner une Coupe ou une Ligue des Champions toutes les années. Donc fatalement, Slot va avoir des résultats moindres, un tout petit peu moindres, et donc ce qui contribuera et ce qui précipitera son changement. Parce que comme tu l'as dit, bon c'est spécifique au foot, mais ça vient au rugby. Et ça vient dans d'autres disciplines. De plus en plus, les investisseurs sont d'une impatience désarmante, affligeante. Ouais, tu n'as pas le temps d'être en place.
Tu l'as constaté,
déjà...
Pascal, au fil de ta carrière, est-ce que plus ça allait, moins c'était...
J'aurais voulu que tu me cites, mais moi, c'est pas aussi ronflant que Marc. Moi, j'ai fait 20 ans dans mon club de toujours. Mais bon, à l'époque où j'entraînais l'ETG qui s'appelait le FC Gaillard, il n'y avait personne qui voulait venir entraîner en promotion d'honneur ce club. Donc, on l'a amené jusqu'à la Ligue 1. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a une impatience qui est supérieure à ce qu'elle était il y a 10 ans ou 15 ans. Et ça, tout le monde le remarque.
L'impatience et l'influence extérieure.
Oui. L'influence extérieure, absolument
l'influence
d'accord avec toi, mais aussi
des partenaires, des sponsors. Non,
l'influence extérieure, c'est tout ce qui est réseaux sociaux.
Réseaux sociaux
et médias qui sont autour du sport en général.
Ça a un impact.
Oui, consultant.
Aujourd'hui, je vais reprendre un exemple que j'ai bien vécu avec Thibaut Pinot sur le Tour. Mais on aurait été dans des périodes antérieures, la vie aurait été plus simple et plus facile avec Thibaut Pinot dans le peloton et dans la course. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et le fait qu'on montre tout et en permanence sur ce qui se passe dans la vie d'un sportif ou d'une équipe, la donne change.
Ça fragilise.
Ça fragilise. Rappelez-vous le rond-point de Thibaut Pinot. Le fameux rond-point qui prend à droite au lieu de prendre à gauche, alors que dans l'oreillette, on lui avait dit de prendre à gauche et qu'il se retrouve à droite, et qu'à la sortie, il perd 30 ou 40 secondes. Mais ça fait tout un tintamarre pendant des heures et des heures derrière et des étapes qui se sont suivies. Alors, il a rétabli la situation, mais
ça te fragilise, c'est ça?
Mais ça fragilise le coureur, ça fragilise le sportif, mais ça fragilise aussi le staff de l'équipe, quelle qu'elle soit. On est en permanence sous l'œil de gens qui vous jugent devant un écran de télé dans un canapé. C'est ces gens-là qui vous jugent en permanence.
Il y a
juste à regarder
qui
ce qui se passe.
Pression, mais qui mettent médiatique. Une pression.
Regardez ce qui s'est passé avec Luis Enrique. Regardez ce qui s'est passé avec Luis Enrique pendant un long moment.
Luis.
Luis.
Oui, parce que c'est son ami maintenant.
Non, mais regardez ce qui s'est passé.
Maintenant,
qui
porte le maillot de la Groupama.
Pendant tout l'automne, on
s'est fait défoncer avec Luis Enrique. Regardez ce qui s'est passé. Il était vilipendé. On comprenait pas son projet. C'était un tocard. C'était un branquignol. Alors, aujourd'hui, alors, on lui met le tapis rouge parce Marc. qu'il a enfin été au bout de ses idées
parce qu'il a aussi changé son comportement en termes de communication.
Oui,
je suis désolé,
il s'en est fallu de pas grand chose
pour qu'il passe à la trappe.
Christophe, tu voulais dire.
Il s'en est fallu de pas grand chose pour qu'il passe à la trappe.
Rappelez-vous.
La boulevard de Paris pour être limité.
Rappelez-vous du comportement de Luis Enrique en début de saison, qui rabroue une jeune journaliste qui lui pose une question et il lui répond, de toute façon, tu connais rien au foot et vous connaissez rien. Il avait un comportement détestable en début de saison, mais qui a soudainement changé sous l'effet des résultats positifs. Et derrière, il a renversé la tendance. Aujourd'hui, il est aimé, mais parce que il se comporte comme un bien. Il se comporte pas comme une
objectivement, Christophe.
Mais en début de saison, il était insu.
Il le montrait pas.
En début de saison, il était insupportable.
Il ne pouvait pas le montrer à l'époque.
Christophe, c'est pas la raison majeure ce que tu dis là, Christophe. Je sais que tu es un sage. C'est surtout parce que le Paris Saint-Germain s'est mis à gagner.
Oui, mais bien sûr.
Champion.
Il y a moins de stress quand tu te mets à gagner.
Donc il est devenu tout d'un coup plus sympathique. Ok.
Donc imaginons, il se fait sortir dans des champions, il s'est déjà en train de faire ses valises pour l'année prochaine.
Oui. Je rappelle juste
j'aimerais faire une remarque.
Ils sont d'accord.
L'état d'esprit des entraîneurs contemporains. C'est comme notre jeunesse en fait. Aujourd'hui, les jeunes ont la bougeotte, ils ont envie de voyager. Et les entraîneurs aujourd'hui, rares sont les entraîneurs qui ont envie de se fixer longtemps aussi dans un club. C'est rare parce qu'ils ont envie de connaître autre chose et quoi de plus normal.
Dans la génération du mouchoir jetable.
Oui, de la même manière qu'on en parle concernant les joueurs, par exemple, les acteurs du football ou d'autres sports, l'esprit d'appartenance à un club aujourd'hui est moins fort qu'il ne l'était il y a quelques années. Valable pour les entraîneurs.
Pascal, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup venant de vous, des sages. On n'a pas évoqué un seul argument principal qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de durer. C'est la transaction. L'agent, les conseillers.
Ah.
Parce que plus tu conseilles, plus il y a du
change,
moment,
et plus tu changes,
il y a
plus d'argent pour l'agent.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui domine le tout? Et pourquoi tout change sans arrêt? Il y a des agents partout. Parce qu'il faut que ça tourne, parce qu'il faut que ça fasse de l'oseille, les gars.
Et c'est
ça, le fait qu'aujourd'hui, ça change beaucoup.
Ça fait partie de l'influence externe, comme les médias, comme les réseaux sociaux.
Avant l'arrêt Bosman, il y avait beaucoup moins de mouvement dans le football. Donc, il y avait des gens qui restaient longtemps dans les clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui arrivent. Et dans le vélo, Marco, on le sait, c'est de pire en pire. Les gars, il change d'équipe. Avant, on durait longtemps dans une équipe.
Aujourd'hui,
c'est fini. À chaque fois, ça prend de l'oseille, évidemment.
Christophe, 25 ans à la tête des grandes gueules du sport.
Je vais prendre un agent, moi, je pense.
Est-ce que c'est
il a un bon réseau. Il a un bon réseau, Christophe.
Non, mais bon, moi, je suis un peu comme Guy Noves. Non, mais il y a des exceptions. En rugby, on n'en est quand même pas tout à fait
ça
au même niveau.
Ça commence à venir simplement.
Le foot, je veux dire, un garçon comme Hugo Mola, ça fait... C'est le patron du Stade Toulousain. Ça fait 10 ans qu'il est en place. 10 ans en matière de sport de ce niveau-là,
ça gagne.
C'est énorme.
Parce que ça gagne aussi. Hein.
Parce que ça gagne, mais parce que aussi on lui a laissé la chance. Parce que pendant ces 3 premières années, il n'a rien
c'était
gagné.
Chaud.
Oui,
c'est sûr, et c'était
mais, chaud mais pour les lui. Dirigeants, mais les dirigeants ont choisi de lui faire confiance. Ont choisi de continuer à construire avec lui. Et au bout de 3 ans, il a commencé à gagner
Christophe,
des titres. Et désormais,
aussi,
on est à 4 boucliers de Coupe d'Europe.
Donc, les dirigeants toulousains était un peu contraint à l'époque parce que les finances n'étaient pas reluisantes.
Non, et puis, ça a participé au fait qu'il
soit maintenu.
En plus, Hugo. Pascal, il y a aussi le fait qu'à Toulouse, on se coopte entre Toulousains. C'est-à-dire
c'est
que tous les dirigeants du club sont des anciens joueurs. Lacroix, qui est le président, c'est un ancien joueur. Casdalbou, Mola a porté les maillots du Stade Toulousain. Et il y a amour de l'institution toulousaine et donc tu vires pas un entraîneur qui a apporté le maillot du Stade Toulousain comme tu vires un entraîneur d'un club lambda.
C'est en ce sens où le dans le sport où ça dure longtemps, le rugby, on peut rester longtemps, le cyclisme, on reste longtemps. Pourquoi ? C'est un peu des valeurs un peu similaires, c'est-à-dire que ça vient du cru. Je sais pas quand Marc Madiot passera la main, mais j'imagine quand même grandement que c'est quelqu'un qui l'aura côtoyé depuis très longtemps, qui sera Picouzé Française des Jeux, Picouzé FDJ, qui prendra cette
pas ce mot-là,
les valeurs,
pas
ce les valeurs,
là
les valeurs,
dans
les valeurs, on parle de valeurs.
Non, s'il te plaît, s'il te plaît.
Mais j'ai pas de problème pour être Picouzé à la Coupe AMF.
On passe 20 ans auprès de Marc Madiot et on apprend ce que c'est que la valeur, la formation, les jeunes, etc.
Vite, une Picouze, les copains. Ah bah tiens, justement,
qui sont mauvaises langues, Marc. On va plus parler avec eux, c'est pas possible.
On parlait de fidélité, Marc. On va parler d'un homme fidèle dans quelques instants.
D'un Opinel
et d'un homme fidèle.
Et on a que Fred Weiss.
Non, c'est Lenny Martinez. On va en parler dans quelques instants parce que ça a été choisi.
Ah bon,
voilà. Tu as gagné, Christophe. C'est la contre-attaque. Lenny Martinez qui va peut-être gagner pour un Français.
Oh, quelle surprise.
Une course à étapes. C'est vrai, tout est truqué. A tout de suite sur RMC. Et restez bien avec nous. Le PSG à 11h. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47 avec Pascal Duprat, avec Marc Madiot, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. À partir de 11h, on ouvre le dossier PSG à 3 jours de ce match face à Arsenal. Le PSG qui s'est incliné pour la deuxième fois de suite en Ligue 1 après Nice. Une défaite face à Strasbourg. Le PSG fausse-t-il la course à la C1? C'est un débat qui a pris, je le dis aux auditeurs, sur notre groupe WhatsApp. Voilà, on a senti que vous étiez très chaud sur le sujet. Alors on s'est dit, on va le proposer aux auditeurs et on sait que ça fait beaucoup parler. Donc voilà, c'est un 2 contre 2, en tout cas, dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, on vous attend, supporters parisiens, au 32-16. Mais tout de suite, mes GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
À vous de jouer et de gagner, peut-être. Il n'y en a qu'un qui gagne. 12%, malheureusement, pour Marc Madiot. Est-ce que nous allons vivre des grands tours historiques comme nous avons vécu des courses d'un jour historique cette saison? 12%
finalement, j'étais en avance sur le temps.
Exactement. Bravo, Marc. On refera ce sujet. On revient avec Flavio Briatore. Troisième.
Oui, il faut que j'y revienne. Et il devrait me donner raison dans pas très longtemps.
Oui, c'est possible.
Grand de France.
Ouais, 16%, Arsenal en plein doute, proposé par Pascal Duprat. Ça n'a pas pris, mon cher Pascal, mais tu as joué. Bravo à toi.
La prochaine fois, je demande l'intervention d'un commissaire de justice pour voir si Christophe Cessieux n'est pas en train de magouiller.
Oui, bah c'est sûr que oui. 26%, il est deuxième avec son projet Paris FC. Tu as des doutes, Jérôme, bah tu vas les garder pour toi parce que tu es deuxième. 46%, Lenny Martinez.
Victoire
très large.
C'est un vote c'est
tout le monde voulait. À mon avis, je soupçonne les auditeurs de vouloir entendre Marc Madiot sur Lenny Martinez, qui n'est plus son coureur.
Non, je fais.
Lenny Martinez,
je joue tactique dans ces contre-attaques. Ouais. Au-delà des 40 ans d'attente depuis le dernier succès d'un coureur français dans le Tour de France, il est d'autres longues séries que l'on aimerait voir s'achever. Une victoire dans Paris-Roubaix, par exemple. Le dernier coureur tricolore à l'avoir fait, c'était, on en est fiers sur RMC, c'était un gars de l'équipe de Madiot. Et oui, Frédéric Guédon, en 97, qui avait surpris tout le monde et triomphé sur le Vélodrome de Roubaix. Marc avait encore les cheveux bruns et moi je débutais dans le vélo, c'est vous dire si ça date. Pour trouver trace d'une victoire française dans une autre grande classique, le Tour des Flandres, il faut encore remonter plus loin. 1992 est le succès de Jackie Durand, l'un des trois seuls tricolores à avoir réussi l'exploit. Mais bon, ça on le sait, c'est les classiques, hein, notamment du Nord, et c'est pas une spécialité ni une tradition française, il n'y a que Madiot que ça intéresse finalement. Non, nous, nos coureurs, on le sait, ils sont faits pour les courses à étapes, ils brillent dans la montagne, ils nous font rêver avec leur maillot à poids et nous font oublier que ça fait 40 ans et Bernard Hinault qu'un Français n'a plus ramené le maillot sur les champs. Donc du coup, que fait-on? On se rabat sur les courses un peu moins longues, un peu moins prestigieuses, celles d'une semaine par exemple. Ça devrait être dans les cordes de nos champions. Mais non, toujours pas. Le dernier succès d'un cycliste bleu blanc rouge sur une course par étape de niveau mondial remonte à 2007. Christophe Moreau, qui cette année-là avait triomphé dans le Critérium du Dauphiné. Magnifique, mais là aussi ça commence à dater. Marc avait quelques filaments argentés dans les cheveux, mais il n'était pas encore papa. Oui, mais toutes ces années de disette, sachez-le, pourraient être effacées d'un coup de revers de la main, dès aujourd'hui. Et oui, incroyable, un coureur français est en tête ce matin à la bord de la dernière étape du Tour de Romandie. Il devance les Cadors, les Almeida, les Gaudu et autres Evenepoel après son succès hier dans l'étape reine de la course suisse où il a battu tout le monde au sommet à Thion et s'est emparé de la tunique jaune de leader. Magnifique, Lenny qui n'appartient plus certes à une équipe française mais qui doit tout à Marc, qui l'a formé, qui lui a appris à gagner 5 victoires la saison dernière quand même sous le maillot Groupama. Groupama avant que les vautours étrangers.
Répète après moi. Groupama
FDJ. Voilà. Avant que les vautours étrangers ne viennent nous piquer notre diamant brut en le grisant de chiffres astronomiques. Mais bon, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Si cet après-midi il est toujours en jaune, à l'issue de l'ultime étape, on criera Cocorico, on fera péter les Marseillaises et on se dira qu'on tient peut-être là le successeur d'Hino. Le problème, c'est qu'il reste une étape, justement. Bon, elle est pas longue. 17 kilomètres seulement. Oui, mais contre la montre. Et ça, ça change tout. L'épreuve de vérité, il faut bien le dire, le chrono, c'est pas le truc de notre Lénie nationale. Bien plus à l'aise dès lors que la route s'élève, plutôt que dans l'effort en solitaire contre le chrono. Si encore il avait 3 minutes d'avance sur ses rivaux, on pourrait espérer. Mais c'est pas le cas. Son maillot de leader ne tient que pour 2 malheureuses petites secondes et une de plus sur Joao Almeida, le leader de la formation UAE, l'équipe de Pogacar, qui heureusement n'est pas là, mais qui, avec le coureur portugais, tient là un sacré coursier, bien plus à l'aise dans les chronos que notre Lénie. Alors, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais j'ai quand même bien du mal à imaginer notre petit grimpeur capable de conserver sa belle tunique et succéder à Moreau. Non, j'ai bien peur qu'il faille patienter encore quelques temps pour faire péter une Marseillaise dans le vélo français.
Bah, j'espère pas quand même, Christophe. Ah ouais. Tu vas pas nous porter l'œil. Lenny Martinez, qui va peut-être gagner une course à étapes, la première donc depuis 2007, on l'a bien compris, et ce succès de Christophe Moreau. Marc, je viens te voir parce qu'il y a une question, on va pas tourner autour du pot, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde, des GG, des auditeurs de la France entière. Est-ce que t'as pas un peu les boules?
Ah non, pas du tout. Pourquoi j'aurais les boules?
Parce que c'est plus ton coureur, parce mais que c'est tu avais des objectifs pour lui.
Bien sûr, ça. J'avais des objectifs pour lui, mais après il y a une réalité sportive et économique qui fait que on se retrouve face à des situations où les boules ne comptent pas.
Donc, à partir de là, il y a
un moment où tu te retrouves confronté aux agents et à la réalité économique, et on peut pas aller contre ça. Donc, non, j'ai pas les boules du tout. Je lui souhaite de gagner cet après-midi le Tour de Romandie. Je pense que ça va quand même être difficile parce que si ça avait été un chrono en côte, je dirais c'est jouable. Un chrono tout plat sur 16-17 kilomètres, ça va quand même être un peu délicat, même si Lenny est capable de belles performances dans les chronos individuels. Mais ça va quand même être un peu compliqué.
Lenny est le meilleur coureur de contre-la-montre des moins de 50 kilos.
Mais oui, bon. Oui. Non,
il va proposer en plus que toi, Bahreïn, pour récupérer les.
Ouais, c'est ma question, là. Moi, j'arrive pas
à. Non, mais je suis pas là pour donner des chiffres, mais les chiffres
sont.
Je vais vous résumer. On était largués. Je vais vous résumer la situation très simplement. Lenny m'a dit, écoute, on me propose un contrat de 3 ans. En 3 ans, même si ça marche pas, j'assure mes vieux jours. Voilà.
Et une équipe aussi prestigieuse que la tienne, vous n'arrivez pas à lutter.
Mais on ne peut pas lutter. Nous, en France, on travaille avec un contrat de travail.
C'est comme le PSG, c'est un club d'État, en fait. C'est un club
d'État. Il y a une réalité très simple. Nous, on travaille avec des contrats de travail, avec des charges sociales, comme toute entreprise française qui se respecte et qui respecte les lois du travail en France. Donc, à partir du moment où, quand tu es dans une équipe étrangère et que tu habites à l'étranger, tu peux être considéré comme un travailleur indépendant, tu gagnes déjà 40% sur les charges. Donc, il y a déjà le problème des charges sociales et patronales à réguler et à régler. Ouais. Donc après, il y a les capacités financières des pays du Golfe, parce que c'est des pays qui sont derrière des équipes. Nous, on est dans un schéma traditionnel qui fonctionne depuis des dizaines d'années et qui a fait le bonheur du sport français dans son ensemble, dans toutes les disciplines sportives, que ce soit le vélo ou ailleurs, des sponsors et des sponsors importants qui s'investissent de manière conséquente et dans la durée. Donc il y a un moment où il faut être réaliste par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, le cyclisme est un sport qui a le vent en poupe, qui se développe, qui est attractif, qui est spectaculaire et qui a des bonnes audiences de télé, notamment avec les dernières classiques, et qui attire des sponsors étatiques. Donc quand vous êtes un sponsor étatique, que vous vous retrouvez face à un sponsor traditionnel, ben, il y a un décalage et une différence, et il faut être réaliste.
Jérôme Pinon.
Deux précisions. Sponsor étatique associé à Mérida, le plus grand fabricant de vélos au monde. Il faut savoir que Mérida, c'est pas que les vélos Mérida. Ça fabrique le plus grand nombre de vélos au monde. De grandes marques.
Il est sûr d'avoir un vélo,
de grandes marques. Ça veut dire que c'est deux grandes puissances surtout. C'est deux grandes puissances.
Avec deux pédales.
OK. Bon.
Moi, ce que je voulais compléter, c'est sur le choix de Lenny. Et je vais le défendre un peu. Une carrière cycliste, elle est courte. Lenny Martinez, pour l'instant, s'il n'a pas fait le meilleur des choix, ce que lui le public espérait, parce qu'on aime toujours voir nos Français, on ne peut pas lui dire t'as fait un mauvais choix, il marche quand même cette année. Ça marche plutôt pas mal pour lui.
Mmh, c'est vrai.
Et une carrière cycliste, c'est court. Et il n'y a pas de problème à dire bah, je vais aller chercher de l'oseille. C'est la vie aujourd'hui. C'est comme ça.
Il est dans son droit. Hein.
Il a fait son choix, il l'assume, il s'en est jamais caché.
Non.
Il a toujours dit j'ai quitté une équipe qui me ressemblait, mais une carrière est courte, je vais chercher le pognon.
Mais
il y a
un problème, c'est que toutes les équipes ne sont pas au même niveau et qu'ils devraient instaurer un salary cap de manière à ce que
ça,
il
n'y ait
pas 3-4 équipes qui rassemblent l'essentiel des meilleurs coureurs et que les autres soient obligés de se débrouiller avec.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça, ça appartient à l'UCI, voire à l'État français aussi.
Ok, on reparlera de tout ça, les copains, avec vous évidemment, Marc Madiot, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux, Pascal Duprat. On poursuit nos discussions avec le Paris Saint-Germain et ce débat qui sent la poudre, peut-être de la mauvaise foi, je ne sais pas, le PSG fausse-t-il la course à la C1, c'est un 2 contre 2. Restez bien avec nous, je pense que ça va être très chaud dans le studio RMC. A tout de suite, on vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.